Chapitre 42. Frida Kahlo. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Paul avait un rendez-vous important. La direction d'une entreprise composée de sémillants jeunes gens voulait le rencontrer pour développer son concept de vieux téléphone à cadran capable de communiquer avec les portables. Il s'était habillé avec soin, rasé la barbe, parfumé abondamment. Avant de partir, il demanda à Mona de lui souhaiter bonne chance. L'enfant, pendant ce temps, devait rester seul dans la brocante verrouillée. Sur l'un des murs était punaisé un article paru dans le Paris Normandie qui la rendait fière, parce qu'il y était question de son père et de son succès sur le marché d'Évreux, mais aussi d'elle à ses côtés. Et dans la phrase qui la mentionnait rapidement, elle n'était pas désignée comme une petite fille, mais comme une jeune fille. Était-ce la première fois qu'on la qualifiait ainsi? En tout cas, cette nuance lui insufflait un enthousiasme intensifié par l'honneur de voir cette expression écrite dans un journal. Cela fit gonfler en elle une sorte de désir vague, mais très puissant, celui de construire sa vie, de se construire elle. Alors, mobilisant son courage et sa volonté, elle prit Cosmos sous le bras, traversa l'arrière-boutique, gagna la trappe, l'ouvrit et descendit à la cave où ne filtrait quasi aucune lumière. Cosmos tremblait et couinait. Dans le noir glaiseux, Mona fouilla au hasard dans le carton où elle avait trouvé de vieux documents sur Colette au mois de mai dernier. Elle en extirpa cette fois trois enveloppes en craft qu'elle s'empressa de remonter. « Ce sera notre secret, Cosmos. » Elle détailla son butin. Il s'agissait de très vieilles coupures de presse, datées respectivement de 1966, 1969 et 1970. Elle les posa délicatement devant elle, au sol, s'agenouilla et se concentra pour saisir des bribes de ce qu'avait été cette mystérieuse grand-mère à laquelle elle songeait si souvent. « Colette Vuillemin, la mort sans la peur », titrait un papier en grosses lettres. « Colette Vuillemin, sa lutte pour un dernier souffle digne », écrivait un autre, tandis que le troisième posait une question. « Veut-elle notre suicide à tous ?» On désignait à chaque fois son aïeule comme une femme combative. Mona aimait cette formule. Si pour l'heure elle n'était encore qu'une jeune fille, elle deviendrait une femme combative, comme Colette, elle se le jurait. Ce n'était cependant pas la seule expression à revenir en boucle. Un terme inconnu et difficile à lire clignotait également au fil des articles. C'était un terme doux, chantant, mielleux et confusément inquiétant par sa musicalité même. C'était le terme « euthanasie ». Sur Paris, l'air était sec, mais des éclairs striaient le ciel au loin. Henri trouvait Mona maussade, et puis elle n'arrêtait pas de se cramponner à son pendentif. D'un geste inconscient, elle tirait dessus comme s'il s'agissait d'une chaînette qui aurait pu actionner un mécanisme et libérer quelque chose. Devant Beaubourg, Henri se figea. Tout était étonnamment calme sur le parvis menacé par l'orage. Il s'accroupit, prit les mains de sa petite fille et, yeux dans les yeux, lui lança. « Mona, parle. Cela te fera du bien. Parle. » Je te jure que ça va te soulager. » Mona esquissa un sourire triste. Elle ne voulait plus regarder son grand-père en face. Alors elle s'enfouit dans ses bras, colla sa bouche contre son oreille. D'une voix un peu honteuse, elle demanda « Dadé, quand est-ce qu'on sait qu'on va mourir ?» Il eut un long silence. Henri serrait sa petite fille contre lui, encore et encore. Mona sentait qu'il ne cessait de déglutir. La glotte allait et venait le long de son interminable cou, tel un piston fou qui cherche à canaliser un débordement d'émotions torrentielles. Il n'avait pas de mots, pas un seul. Son mutisme grondait comme le tonnerre qui glissait vers la capitale. Peut-être Frida Kahlo saurait-elle l'aider à trouver quoi répondre. C'était un portrait de femme, d'une trentaine d'années, sur un fond bleu uniforme. Sa figure sévère, dominé par un monosourcil semblable aux deux ailes d'un grand oiseau, abondante pilosité à laquelle faisait écho un duvet finement tracé au-dessus des lèvres, était tourné aux trois quarts vers la droite de la composition. On voyait pendre dans sa nuque le nœud d'un ruban vert qui lui attachait et tressait des cheveux noirs, qui radiaient à leur sommet une couronne de tournesol. Le visage était avare en modelé, peint de façon naturaliste mais sans fioritures, sèchement et presque naïvement, ce qui lui donnait un aspect d'icône atemporelle. Néanmoins, de nombreuses nuances de chair et la bouche fermée d'un rouge sang étaient signes d'une vie débordante et résolue. Le regard très dessiné par l'arc des paupières véhiculait en particulier une impressionnante détermination intérieure. Le corps s'étirait en un long cou qui émergeait d'un corsage vert à liseré jaune moucheté. Cette femme était par ailleurs encadrée de tout un jeu de motifs simplifiés et très colorés d'une symétrie à la fois recherchée et maladroite. Trois corolles de fleurs roses et rouges sur les côtés, en haut un décor aux limites de l'abstraction rappelant la voûte d'une chapelle et les rideaux d'un théâtre. Et puis face à face, il y avait en bas de l'œuvre deux volatiles de profil schématisé, munis d'une belle houppe. Le bec, les ailes et la queue étaient jaunes. La tête et le jabot étaient rouge-rose. De même que certaines parties des fleurs et les plissés du rideau, la tête des oiseaux, qui arrivait au niveau des épaules du modèle, laissait voir en transparence l'espace du portrait. On comprenait alors que le jeu de motifs de l'encadrement avait été réalisé au revers de la plaque de verre qui couvrait le portrait peint et s'y superposait. Jamais Mona n'avait senti son grand-père aussi troublé devant un tableau. D'ordinaire si droit dans sa posture, Henri semblait s'être voûté comme si le spectacle de ce mercredi l'avait usé. Ses épaules tombaient vers le sol à la façon d'un arbre moribond. « Est-ce que tu vas bien, Dadé ?» demanda timidement Mona. « Oui, très bien. » Il sourit et passa une main chaleureuse dans les cheveux de sa petite fille. Mais j'éprouve un certain chagrin chaque fois que je vois cette œuvre. C'est un tableau rare, tu sais. Dans les musées européens, il n'existe qu'un seul tableau de Frida Kahlo, et c'est celui-là. C'est le Louvre qui le lui a acheté en 1939, sur les recommandations de l'écrivain surréaliste André Breton qui avait découvert l'artiste au Mexique. « Le Louvre ! Oh, le Louvre !» s'exclama Mona avec un enthousiasme appuyé. « Mais alors on aurait dû voir Frida Kahlo là-bas. On pourrait la décrocher et la mettre en face de la Joconde. Viens, on le fait. Les deux toiles se regarderaient, ce serait si chouette. »
« Ce serait une magnifique idée, Mona. Et si tu devenais un jour conservatrice de musée, tu aurais cette audace, j'en suis sûr et certain. En attendant, tu dis quand même des bêtises. »
« Je sais ce que tu penses. On va encore se faire gronder par la sécurité. »
« Non, la taquina Henri. Tu dis des bêtises parce que la Joconde n'est pas une toile. Vinci l'a exécutée sur une fine planche de peuplier. Et ce tableau ne l'est pas davantage. L'autoportrait est peint sur un support en aluminium. Et il est associé à ce qu'on appelle un fixé sous verre. En fait, ce tableau est composé de deux pièces. Il y a d'abord le support où l'on voit la figure et le fond bleu. Et par-dessus, il y a une plaque de verre dont le revers est lui-même peint.
C'est là où il y a les fleurs, les oiseaux et le chapiteau au-dessus de la tête. C'est toute la guirlande qui entoure le portrait, je parie. D'ailleurs, on voit bien que c'est superposé à certains endroits, notamment là où il y a la tête des pigeons.
Bien observé. Qu'a fait Frida Kahlo, en définitive? Elle a composé d'une part une œuvre qui lui est propre et qui la montre, elle, et d'autre part, un objet folklorique venu d'un petit village mexicain.
Ça veut dire que ce que tu appelles le fixé sous verre a été fait par quelqu'un d'autre qu'elle?
Exactement. C'est un artisan qui l'a fabriqué, sans doute pour y glisser une image pieuse. Frida l'a récupéré et l'a intégré à sa propre production. C'est pour elle un moyen de mettre au même niveau sa voix de peintre singulière, individuelle, et celle anonyme de la tradition populaire. Henri, en abordant ces sujets techniques et politiques, avait retrouvé son panache, et Mona s'en félicitait.
Elle comprenait à nouveau avec Frida Kahlo, comme elle l'avait déjà saisi auprès d'Anna Hoesch, de Brancusi, de Duchamp ou de Kandinsky, combien il était important pour les créateurs de valoriser d'autres savoir-faire que les leurs.
Frida Kahlo a eu une vie difficile, reprit Henri. Toute jeune, déjà, elle a souffert d'une infection, la poliomyélite. Elle en garda une jambe plus courte que l'autre, qui la faisait boiter. Très bonne élève, énergique et créative, elle se destinait à des études de médecine et intégra la meilleure école de Mexico, où il y avait seulement 35 filles sur 2000 élèves. Elle subit surtout un épouvantable accident dans un autobus en 1925. Son pied fut écrasé, son épaule disloquée, sa colonne vertébrale et son bassin brisés en plusieurs morceaux. Elle demeura de longues semaines inconsciente, et à peine réveillée de son coma, bien que paralysée, elle réclama du matériel afin de peindre.
Mais comment a-t-elle fait si elle était paralysée ?
Elle fit fabriquer un dispositif pour travailler allongée, avec la toile ou le papier au-dessus de sa tête, et un miroir pour voir son visage. Mais tu dois t'imaginer Frida Kahlo comme une femme debout, toujours debout, malgré les opérations et la douleur. Sens-tu cette extraordinaire droiture ? La nuque est puissante, le front ample et dégagé, le regard sévère sans être austère. Ce sont là les marques caractéristiques de sa rectitude. Elle dut régulièrement porter des corsets en plâtre ou en fer pour empêcher son corps de s'écrouler. La peinture lui a permis d'apprivoiser la souffrance morale et physique. Sa chair n'a cessé de lui faire mal, et l'art la maintenait en vie contre la tentation de mort.
Tu veux dire qu'elle voulait se suicider, Dadé ?
Henri baissa la tête et sa mâchoire se contracta. Était-il bien raisonnable de parler à Mona de tout cela ? Oui, Frida Kahlo voulut se suicider. Et oui, sans doute, l'a-t-elle fait en 1954. On dit que c'est une pneumonie qui l'emporta, mais après avoir été amputée de la jambe droite à cause de la gangrène, tout indique qu'elle décida d'elle-même de sa mort parce que c'en était trop. Pourvu que la fin soit joyeuse et puis-je ne jamais revenir, écrit-elle dans son journal. Le propos sans ambiguïté rappelait à Henri les derniers mots de celui de Cesare Pavese en 1950. Pas de parole, un geste. Je n'écrirai plus. Et l'écrivain italien s'empoisonna avec des médicaments. Mais raconter cela à Mona, non, c'était impossible. Car si elle se retrouvait un jour handicapée, frappée de cécité, il ne devrait jamais, absolument jamais, lui faire douter du désir de vivre. C'était donc desservir à la fois sa petite fille et la mémoire de Frida Kahlo que de ne lire son œuvre qu'à l'aune d'un combat entre la vie et la mort. Il se redressa et prit l'enfant par l'épaule. Ce n'est pas cela l'important, Mona. L'important, c'est ce que nous avons devant les yeux. Et qu'avons-nous oublié ?
Les deux oiseaux ?
Exactement. Frida Kahlo, comme Rosa Bonheur avant elle, adorait les bêtes. Parmi la cinquantaine d'autoportraits qu'elle a signés, nombreux sont ceux où elle se montre au milieu de singes, de chiens ou de chats. Elle avait aussi des perroquets. Là, elle est entourée de deux oiseaux à huppe, peut-être des pigeons ou des colombes.
Moi, Dadé, je crois qu'ils sont deux protecteurs, deux gardiens pour Frida Kahlo. Et puis aussi, ils symbolisent l'envol, comme dans la sculpture de Brancusi.
C'est certain, Mona. Et puisque tu parles de symboles, je pense par ailleurs qu'il représentait pour elle son histoire d'amour avec un autre peintre mexicain extrêmement important également, Diego Rivera. Elle eut avec ce dernier un peu la même histoire qu'Anna Hoesch connue avec Raoul Hausmann. Une histoire passionnelle sur fond de grande émulation artistique, mais terrible sur le plan personnel. Frida Kahlo a notamment souffert de ne pas pouvoir avoir d'enfant à cause de son accident. Tu vois que le destin ne l'a décidément pas épargnée.
C'est comme si elle était sans arrêt tout près de la mort et qu'elle voulait qu'on le sache.
C'est vrai, mais je crois que Frida Kahlo, en offrant une effigie si fière d'elle-même, en s'érigeant en Madone qui surmonte tous les martyrs, donne une leçon beaucoup plus profonde, une leçon qui déjoue la fatalité.
Laquelle ?
Ce qui ne tue pas rend plus fort. » Ces mots, dont Henri se garda de dire qu'ils étaient de Friedrich Nietzsche, s'imprimèrent si intensément en Mona qu'elle n'eut pas besoin de les prononcer pour les assimiler. Ils se nichèrent naturellement dans sa psyché. Dehors, l'orage était passé sur Paris. Les trottoirs étaient humides. Mona interpella son grand-père, un arc-en-ciel immense et si bien dessiné qu'il semblait former une architecture hallucinatoire enjambait la capitale. De concert et sans même s'en apercevoir, ils serrèrent chacun le pendentif qu'ils avaient autour du cou.